Bonjour, je m'appelle Aïda, j'ai 34 ans, je suis maman solo de deux enfants de 5 et 7 ans. Ce que je trouve très compliqué en tant que maman solo, c'est vraiment le fait de devoir jongler entre le travail et la maison. Et je pense qu'on n'a vraiment pas beaucoup de choix de mode de garde, de possibilités de garde pour les enfants par rapport aux horaires de travail, c'est-à-dire qu'il faut soit les amener très tôt à la garderie le matin, soit les récupérer très tard. Et c'est vrai que je trouve que déjà c'est un coût pour celles qui ont un salaire qui n'est pas forcément élevé. Donc en fait, on est obligé de faire des mi-temps et des trois quarts de temps pour pouvoir faire des économies au niveau de la garde. En plus de ça, on travaille la semaine, le repos, on doit s'occuper des enfants. Vu qu'on est solo, quand on n'est pas accompagné, qu'on n'a pas de famille autour, c'est très compliqué. Donc, on n'a pas de repos. Donc, à la fin, ça finit en burn-out ou vraiment grosse, grosse fatigue.
Même si certaines ont décidé de faire, comme dit la chanson, un bébé toute seule, la majorité des mamans solo n'ont pas vraiment eu le choix. Aujourd'hui, c'est environ 25% des familles qui sont monoparentales et dans presque 9 cas sur 10, c'est la mère qui se retrouve seule avec les enfants. Et ça, c'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. Élever nos gosses est un challenge au quotidien et celles qui vivent en couple effleurent parfois ce sentiment d'envie face à une copine qui n'a les siens qu'une semaine sur deux. Elles se disent qu'avec cette config, elles souffleraient peut-être un petit peu. D'autres se retrouvent sans personne, avec un conjoint aux abonnés absents, et là, elles deviennent les seules maîtres à bord. J'admire profondément toutes ces mamans multitâches qui gèrent leur vie familiale, sociale, amoureuse, avec courage et fierté. Ce podcast s'adresse aux mamans solo qui ont trouvé leur rythme de croisière, mais aussi à celles qui cherchent, qui tâtonnent, se trompent ou galèrent. Bref, à toutes celles qui de toute façon font et feront bien comme elles le peuvent. Shane Love est notre invitée parce qu'elle est maman solo, créatrice du blog et podcast Tourbillon et autrice du livre Maman Solo, qui regorge de conseils sans jugement et en toute bienveillance. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comme on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents Galère sa mère, un épisode Galère sa maman solo. Bonjour Shane Love.
Bonjour Dorothée.
Alors, on appelle maman solo les femmes seules depuis la grossesse, les femmes divorcées, celles pour qui le papa n'assure pas grand-chose, voire rien, ou celles qui ont les enfants une semaine sur deux. Dites-nous un petit peu ce qu'englobe le terme.
Alors, moi j'ai décidé d'englober absolument toutes les mamans solo, donc celles qui sont en garde alternée, celles qui sont à temps complet, celles qui ont une pension alimentaire, celles qui n'ont pas de pension alimentaire, celles qui sont tristes, celles qui sont heureuses. Il y a également celles qui donc sont divorcées, séparées, mais aussi celles qui ont décidé de faire une PMA, donc de devenir maman solo par choix, et également les veuves, celles dont la vie les a séparées malheureusement de leur conjoint.
Voilà, juste pour poser le tableau, effectivement, on englobe toutes ces mamans-là sur le sujet aujourd'hui. J'ai une question qui est pour moi fondamentale, et j'en parlais en introduction. Comment est-ce que vous expliquez cette hausse du pourcentage des mamans solo aujourd'hui?
Ça va avec la hausse des divorces, de toute façon. Ça, c'est un fait. Ensuite, comme j'en parlais à l'instant, il y a aussi celles qui décident de faire un bébé toute seule.
Oui, qui est nouveau.
Alors, c'est pas nouveau, mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant, c'est autorisé. Oui. En France, pour les femmes célibataires, donc c'est une grande avancée. Et voilà, c'est ce quotidien très chargé que l'on a tous et toutes, et qui font que les couples peut-être s'usent un petit peu. Aussi, cette liberté peut-être de choisir une deuxième aventure dans sa vie, et donc de ne plus rester jusqu'à ce que la mort nous sépare en couple. Voilà, d'avoir un champ des possibles un peu plus ouvert, et donc des couples qui se séparent de plus en plus, et des femmes qui font des choix de devenir mères, même si elles n'ont pas encore trouvé le prince charmant ou la princesse charmante.
Alors, que nous dit la loi aujourd'hui? Donc, les choses ont évolué, mais quand une femme, je le disais, c'est souvent la femme qui se retrouve donc toute seule, son niveau de vie chute, forcément.
Oui.
Quelles sont les aides financières pour elle? On sait qu'il y a aussi beaucoup de conjoints qui ne donnent pas de pension compensatoire.
Ouais.
Quels sont les recours pour ces femmes-là?
Alors, la prestation compensatoire, c'est lorsqu'on a été marié. Ça permet de compenser justement cette différence entre le niveau de vie qu'on avait en étant marié et le niveau de vie qu'on va avoir une fois séparé. Donc la femme de base gagne, on le sait, 20% de moins en général de salaire. Donc effectivement, quand il y a un divorce, notamment je pense aux femmes au foyer par exemple, aux mères au foyer, qui ont arrêté de travailler pour s'occuper des enfants, bah, en cas de divorce, les voilà bien dans la panade. Donc effectivement, si elles ont été mariées, il faut cette prestation compensatoire pour que pour qu'elles puissent à minima s'en sortir un petit peu. Ensuite, il y a des aides donc proposées par l'État. On a l'ASF, donc ça c'est pour les mères isolées quand il n'y a pas justement de pension alimentaire, donc il y a encore une chose différente de la prestation compensatoire. Donc pour les pensions alimentaires, effectivement, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout versées.
Eh oui.
Alors, on a toujours cette guerre autour de l'argent quand les couples se séparent, c'est assez flippant de voir que on va se faire la guéguerre sur des sommes versées alors que la pension alimentaire concerne à la base le bien-être des enfants. Mmh. Mais ça, on l'oublie un petit peu en cas de divorce conflictuel ou de séparation conflictuelle. Donc, dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle l'ARIPA. Donc ça aussi, c'est assez récent. La CAF, c'est l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Donc, on va aller voir directement à la source. Donc, c'est plus la mère qui va demander en direct ou à travers des huissiers de recevoir cette pension, son dû, on va dire.
Mm-hmm.
Donc, ça passe par un intermédiaire, ce qui est une bonne chose.
Ce qui veut dire que la CAF prend le relais ?
Exactement, la CAF prend le relais et c'est elle qui va aller directement s'occuper de ce sujet-là.
Okay.
Parce que ça peut être un sujet assez éreintant de devoir quémander parfois une centaine d'euros. Donc, c'est une bonne chose que ça a été mis en place. Il y a encore des choses à améliorer, j'imagine, sur ce système-là. Mais en tout cas, c'est un premier pas,
okay,
on va dire, pour ce qui concerne les pensions alimentaires. Ensuite, on a tout ce qui est aide à la garde d'enfants. Donc, il y a ce qu'on appelle la CMG. Donc, c'est une aide pour la garde des enfants qui va jusqu'aux 6 ans. Ça aussi, c'est en train d'être revu. Parce que c'est un petit peu trop tôt, en fait, 6 ans. Les enfants ne sont pas autonomes à 6 ans. Mmh. Donc, c'est une loi qui va être augmentée jusqu'à l'âge de 12 ans pour que les enfants, à ce moment-là, deviennent un peu plus autonomes. Donc, la garde d'enfants n'est plus forcément un sujet. Mais c'est vrai que de la naissance jusqu'aux 12 ans, il faut trouver toujours un système de garde quand
Bien
on
sûr.
Est maman solo.
Mmh, mmh.
C'est pas vraiment évident. Donc voilà, cette aide devrait arriver en 2025. Donc il y a encore beaucoup de temps à attendre, mais voilà.
Ça bouge en tous les cas. Ça continue à bouger. Est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui de la part de l'État? Qu'est-ce que l'État pourrait faire de plus?
Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. Bah, déjà ça, d'augmenter l'âge des aides pour la garde des enfants. C'est vraiment primordial pour que les mamans solo puissent souffler un peu et surtout pouvoir aller travailler sans dépenser une fortune. Ensuite, il y a l'accès aux logements sociaux qui devrait être prioritaire pour ces familles-là.
Mmh.
On discute là du sujet d'une carte de famille monoparentale qui permettrait d'avoir des réductions, des aides au même titre que
les familles nombreuses.
La carte des familles nombreuses. Donc là, c'est un sujet qui est aussi sur le tapis actuellement. Donc il l'est un petit peu depuis de très nombreuses années, mais une députée que j'ai interviewée d'ailleurs dans mon podcast, qui est maman solo, reprend là ce sujet en main. Donc on espère vraiment qu'elle va pouvoir faire bouger les choses.
Mmh.
Voilà. Ensuite, on peut penser... par exemple, pour justement encore les mamans solo salariées dans les entreprises, pouvoir doubler les jours d'enfants malades, puisque celles qui sont seules à solo à 100% du temps, ou soit le père est démissionnaire, ou elles ont encore une fois choisi de faire un bébé toute seule, devraient pouvoir bénéficier en fait de la totalité des jours enfants malades qui sont normalement donnés au couple. Ce qui pourrait être une avancée aussi, c'est au niveau de la pension alimentaire, justement, qui est imposable pour celle qui la perçoit et défiscalisée pour celui qui la verse. Donc, fait, en imposant la pension alimentaire, c'est considéré donc comme une ressource, comme un revenu, ce qui fait qu'on peut aussi avoir des aides en moins puisqu'on a cette ressource qui vient chaque mois. Donc voilà, ça peut se jouer à quelques dizaines d'euros ou à...
Ça peut être très important.
Voilà, donc c'est une chose aussi très importante. Ça permettrait aussi de rééquilibrer un petit peu les choses. Voilà, bon, la liste est quand même assez longue.
Oui. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses qui pourraient bouger, même si ça avance, même si ça avance à pas de fourmi. Ces femmes se retrouvent donc face à une montagne de choses à gérer. Moi, je sais qu'en parlant avec mes copines aussi, certaines me disent que leur plus grosse angoisse, finalement, c'est d'être le seul parent référent.
Oui.
Quand on n'a pas de coparent pour partager les questionnements, les doutes, prendre des décisions. Comment est-ce qu'on fait pour le gérer et surtout pour pas toujours avoir l'impression, finalement, d'avoir le mauvais rôle? Parce que c'est vrai que quand on est deux, on peut alterner.
Oui, tout à fait. Alors, on dit souvent qu'il y a le good cop, bad cop quand on est en couple. Donc là, on est un peu dans une schizophrénie à être les deux à la fois. En fait, il y a deux choses dans le fait de gérer toute seule l'éducation des enfants. Il y a d'une part, effectivement, le fait de ne pas pouvoir partager même les bons moments, parce que il y a aussi beaucoup de bons moments qu'on aimerait partager. Les premiers pas de son bébé, les premiers sourires, les bonnes notes à l'école, les vacances. Il y a plein de bons moments qu'on aimerait partager. De garder aussi en tête le fait qu'on les a vécus. Donc ça, c'est quand même chouette. Mmh. Ensuite, au niveau de l'éducation, effectivement, alors là aussi, c'est à double pendant. C'est-à-dire que d'un côté, c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions seules. Finalement, il n'y a pas de débat. C'est vrai, on n'a pas à débattre de ce qui va être fait pour le week-end, pour les vacances, pour le dîner du soir, pour les devoirs. Voilà, on a un système qu'on met en place seul et donc on y va. Mais effectivement, après, c'est plutôt la grosse charge mentale de tout gérer tout le temps, qui peut être assez lourde au quotidien.
Et comment on gère son planning au quotidien, justement, pour pas se retrouver débordé? On n'a qu'un seul salaire, la garde d'enfants, on l'a évoqué, c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi les bonnes idées pour s'organiser, alors?
Je pense que c'est surtout à la débrouille. Quand on se retrouve maman solo, c'est complètement à la débrouille. Après, effectivement, il y a des systèmes qu'on met en place petit à petit. On s'adapte à cette nouvelle vie. Donc, ça va être, je sais pas, par exemple, pour les menus de la semaine, programmer ces menus de la semaine à l'avance. Ça va être de trouver des activités si on est financièrement short, de trouver des activités qui coûtent pas cher. Donc ça peut être des balades tout simplement avec ses enfants, regarder un film sur l'ordi ou à la télé, faire des activités manuelles avec deux feutres et trois feuilles. Enfin voilà, c'est vraiment à la débrouille et la gestion au quotidien, de ne pas se laisser déborder. Encore une fois, s'il y avait une recette pour que chacune trouve son équilibre, ce serait vraiment une bonne chose. Je dirais déjà ne pas culpabiliser si on n'arrive pas à tout faire. C'est vrai que, par exemple, on parle de lâcher prise très souvent. Moi, je pense, par exemple, quand on a un bébé et qu'on est seul à ce moment-là pour gérer, on dit souvent dormez en même temps que votre bébé dort. Oui. Moi, je trouve que, alors, on aime ou on n'aime pas, je sais qu'il y a deux écoles. Moi, je trouve ce conseil, en tout cas pour moi, il a été très précieux parce que je l'ai appliqué vraiment à la lettre. J'ai dormi à chaque sieste de mon bébé en même temps que lui et c'était pas grave si le ménage n'était pas fait, c'était pas grave si c'était un peu le bazar. Tant pis, on fait comme on peut. Et ensuite, il y a aussi le fait de pouvoir dire non, par exemple, quand on propose une sortie, parce que c'est vrai que quand on est seul, on peut avoir très envie de garder absolument le côté sociable et donc être sollicité et dire non parfois, vraiment se recentrer sur soi et pouvoir se reposer, se ressourcer un petit peu, ça peut être une bonne chose aussi.
Mais non plus, sans s'enfermer. En fait, il y a un équilibre aussi, c'est ça qui est difficile à
j'ai le sentiment de trouver. C'est toujours une question d'équilibre.
Parce que c'est vrai que je suppose que, il y a les copines qui veulent sortir, il y a aussi les copines, je suppose, qui veulent nous recaser.
Ah oui.
Gérer la vie sociale et amoureuse quand on est toute seule, comment on trouve le bon équilibre?
C'est compliqué. Alors, pour la vie amoureuse, il y a les applications de rencontres. Si jamais on n'a pas de dispo pour sortir et aller rencontrer l'âme sœur numéro 2 dehors. Mais après, oui, effectivement, c'est vraiment, tout est assez millimétré en termes de liberté. Alors, c'est plus simple quand on est justement en garde partagée ou on a un week-end sur deux, par exemple, de dispo. Mm. Mais là aussi, il faut un peu se préserver quand même parce que c'est justement à ces périodes où on va avoir les moments où on n'a pas notre enfant, on va vouloir faire 10 millions de choses. Et en fait, le retour est assez rapide. Hein. Un week-end, ça dure 2 jours. Donc, en fait, on se pose jamais. Et je sais qu'il y a plein de mamans solo qui ont fait ce constat-là aussi. Et moi, par exemple, quand mon fils a commencé à aller en week-end chez son papa, bah, je me suis rendu compte que j'étais assez souvent malade pendant ces week-ends-là.
Ah ouais ?
Ouais, gros rhume, mal de tête. Parce que, en fait, je pense que le corps parle. Mmh. Et quand il faut décompresser, bah, il faut décompresser vraiment. Donc voilà, effectivement, c'est tout un équilibre que, je pense, maman solo ou pas, personne n'a jamais trouvé. Donc on y va tout à tâtons et avec voilà, des petites choses qu'on essaye par-ci, par-là. Et quand ça marche, ben, on garde. Et puis on essaie autre chose et puis on garde. Pas de recette magique, malheureusement.
On parlait des copines juste avant, qui essayent forcément de nous faire sortir. Est-ce qu'il y a des choses que les mamans solo ne veulent pas entendre, qu'on doit vraiment surtout pas leur dire? Qu'est-ce qu'on doit éviter de leur dire? Et à contrario, qu'est-ce qu'on doit leur dire de positif?
Alors, il y a une chose qui peut être difficile à entendre quand, par exemple, on est un peu dans la panade et que nos amis nous disent « Bon, bah, ton enfant va bien, c'est le principal ». Ça, c'est très dur parce qu'en fait, ça balaye complètement émotions ressenties par la femme, celles qu'on veut exprimer justement à ses amis. Et évidemment, l'enfant va bien, les enfants vont bien, on fait tout pour de toute façon. Là, on a juste envie de parler de soi, en fait, de nos difficultés, de nos joies, enfin, voilà, d'exprimer nous, pas en tant que mère, mais en tant que femme qui traverse des émotions assez fortes. Donc ça, vraiment, voilà, ne pas les balayer par cette phrase qui peut être vraiment agaçante. Mmh. Ensuite, ce serait bien que tu retrouves quelqu'un. Ça, c'est, je pense, la phrase
la pire.
Infernale. Parce que nous, on n'a pas déjà toute envie de se remettre ou de se mettre en couple. Le célibat fait très peur hein, dans notre société. C'est très étonnant, mais quand on est seul, c'est forcément qu'on ne trouve pas chaussures à notre pied, qu'on est une vieille fille ou qu'on est déprimée ou qu'en tout cas, la vie ne peut pas être à 100% formidable si on n'a pas un conjoint ou une conjointe pour la partager. Donc non, personne n'est prête au même moment. Personne n'a envie forcément de trouver l'amour. Certaines, oui. Donc dans ces cas-là, bah, je pense qu'elles vont faire ce qu'il faut et y aller sans souci. Certaines ont besoin aussi de récupérer un peu. Si on a divorcé, ben on n'a peut-être pas forcément envie de se remettre dans le bain immédiatement. Donc voilà, c'est un peu lâcher aussi, lâcher les mamans solo avec ça. On ne se permettrait pas de dire à quelqu'un en couple, bon, ben là, ce serait bien que tu te sépares, parce que franchement, on peut le dire quand on est vraiment très intime et qu'il y a le sujet qui est évoqué, mais... quand on est intime avec une amie très très proche.
Oui, mais pas entre copines, on ne va pas dire ça.
Voilà, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va sortir comme ça. Donc,
Les phrases à éviter.
Ouais. Ou alors, oh là là, je ne sais pas comment tu fais.
Ouais.
Bah, en fait, on n'a pas le choix. Donc, tu ferais la même chose si tu étais dans ma situation. Donc plutôt, essaye de voir ce que tu pourrais faire pour m'aider, au lieu de me dire que tu ne sais pas comment je fais.
On a besoin d'avoir beaucoup de personnes autour de soi, justement. On a besoin de savoir solliciter les autres. Ou pas.
Bah, c'est toujours important d'être entouré, que ce soit par la famille ou les amis, même au niveau professionnel, de savoir qu'on est épaulé sur tout ça. Bien sûr, c'est toujours mieux. Après, beaucoup, bon, chacun jauge avec ce dont elle a besoin. Mais c'est vrai que d'avoir des épaules sur qui compter, des relais par exemple, évidemment, ça aide beaucoup. Les mères isolées totalement, qui n'ont pas du tout d'entourage proche d'elles physiquement, pour les aider, c'est vrai que c'est assez compliqué.
Vous le disiez juste avant, on a du mal avec le célibat aujourd'hui. Les mamans solo, on essaye de les recaser illico presto. Mmh. On a peur de quoi? On a peur que finalement, un enfant élevé seul par sa maman ait des répercussions sur son éducation?
Oui, j'imagine que c'est vrai qu'on a, on a évolué là-dedans, dans les contes de fées, le papa, la maman, les deux enfants, le pavillon et le chien. Donc, dès qu'on déconstruit un petit peu la famille nucléaire en proposant un nouveau schéma, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans l'acceptation totale de la famille monoparentale. C'est un petit échec, en fait, dans le parcours traditionnel, quoi, dans le parcours familial. Alors, les études montrent que pas du tout. Il n'y a aucun souci dans l'évolution et le bon développement des enfants de famille monoparentale. Alors, bien sûr, c'est plus simple si ce n'est pas conflictuel. Bon, ça rentre un petit peu dans les mœurs quand même, les parents divorcés. C'est vrai que c'était un peu plus rare il y a 20-30 ans, on en parlait, on en voyait moins. Maintenant, on voit d'autres schémas, des familles homoparentales, des familles monoparentales. Donc voilà, ça entre dans les mœurs petit à petit. Et les enfants, du coup, se sentent moins aussi isolés dans leur situation. Donc ça les aide. Donc c'est pour ça que moi aussi, j'ai envie que les adultes intègrent tout ça, parce que ça aide tellement les enfants derrière, en fait. C'est même pas pour les adultes en eux-mêmes, c'est vraiment pour les enfants après. Plus tout ça est déconstruit, plus le schéma de la famille est complètement déconstruit. Et bien, plus les enfants derrière seront apaisés et sereins avec leur situation.
Ce sera plus naturel, bien sûr.
Absolument.
J'aimerais qu'on revienne sur un cas peut-être un peu plus particulier. Là, on parlait de divorce, d'une semaine sur deux, des femmes qui ont décidé de faire un enfant toute seule. Quel conseil est-ce que vous donneriez à une femme qui, pour le coup, se retrouve seule, parce qu'on l'a laissée, dès sa grossesse?
Ouais. Alors là, la grossesse, effectivement, c'est un cas particulier, puisqu'il y a un mélange incroyable des émotions. On va devenir mère, donc on est très heureuse à l'idée de devenir mère. On a tous les hormones qui se mettent en ébullition. Et en même temps, on peut avoir cette tristesse d'avoir été plaquée ou laissée au moment de la grossesse. Donc effectivement, il faut... C'est assez fort à gérer. Les conseils, c'est déjà d'accueillir en fait toutes ces émotions, parce que si on les passe un peu à la trappe, si on les met sous le tapis, ça va forcément ressortir à un moment. Donc accueillir toutes ces émotions, ça marche un petit peu pour tout. Enfin, ça vaut un petit peu pour tous les cas. C'est de se laisser le moment d'être triste en fait. Et si on voit que ça dure, bah, consulter quelqu'un évidemment, puisque là, c'est qu'on entre dans une déprime, voire une dépression. Mais accueillir en tout cas ce qui nous arrive, et ensuite se focaliser un petit peu sur ce que va être sa vie de femme enceinte, donc prendre soin de soi, voir du monde, donc voir ses amis, parce que là on n'est pas encore tout à fait maman, hein. On est encore enceinte, donc on peut faire encore plein de choses, profiter de tout ce temps-là, construire cette famille qui va être à deux ou trois si on a des jumeaux, ou plus si on a triplé, mais bon, là, c'est autre chose à gérer. Good luck.
Ouais.
Mais voilà, essayer de se construire un petit peu son petit cocon, construire ce futur, cette future famille, prendre soin de soi, prendre des photos aussi, des photos de sa grossesse pour avoir des souvenirs. Je sais qu'il y en a qui parlent, moi c'est ce que j'avais fait aussi, parler à mon bébé in utero, donc vraiment... commencer à construire cette équipe. C'est vrai quand on est maman solo, on parle souvent d'équipe, ouais. De faire équipe. Et en fait, ça commence dès maintenant, dès cette grossesse. Et ensuite aussi, visualiser cet espace qui sera occupé par ce petit bébé qui va arriver, s'entourer. Donc, ça peut être aussi pour l'accouchement, désigner quelqu'un qui va nous accompagner, soit pour toutes les échographies. Ça peut être une amie, ça peut être sa maman, ça peut être peu importe. Ça peut être une sage-femme, ça peut être une doula qui nous accompagne aussi pour l'accouchement. Voilà, en gros, les conseils pour une grossesse en solo.
Et puis, il faut rajouter aussi, j'espère que ça va voir le jour en France, que l'Espagne est pionnière. Ils ont réussi pour justement les mamans solo, enceintes et qui accouchent, à cumuler le congé maternité et maternité.
Oui.
Voilà, c'est une superbe initiative et on espère que ça va voir le jour très rapidement en France.
Effectivement, c'est vrai.
Je voulais vous demander, on a parlé quand même de ces femmes aussi qui ont choisi d'avoir leur enfant seule, et non pas parce qu'il y a séparation, mais cette question, je pense qu'elle s'adresse à tout le monde, et j'aimerais terminer avec ça sur une note aussi très positive. Selon vous, quels sont tous les avantages à être parent solo? Parce que forcément, il y a des avantages.
Oui, bien sûr, dans toute situation. Alors, avantage, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il y a des aspects positifs, évidemment, dans cette vie de maman solo. On en parlait, c'est le fait de mener sa barque. Il n'y a pas que du négatif à mener sa barque. C'est vraiment parce qu'on est aussi valorisé en tant que femme, en tant que mère, de voir nos enfants épanouis justement. de voir qu'on arrive, malgré toutes les embûches, voilà, à garder le menton relevé et chaque jour à gérer notre petite tribu. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même...
Une grande fierté.
Très fort. Ouais, c'est une fierté, c'est très fort, c'est des émotions très fortes. On partage aussi des moments assez exceptionnels et privilégiés, en fait, avec nos enfants, parce que les conversations, elles se font entre eux et nous seuls, en fait. Il n'y a plus... Il n'y a pas une deuxième personne qui partage les conversations. Donc, c'est souvent très... les enfants de parents solo peuvent... mûrir peut-être un petit peu plus vite aussi, de par ces échanges qui sont faits, ces discussions. Aussi, on les emmène en vadrouille un petit peu partout avec nous. En tout cas, moi, pour mon cas, c'est ce que j'ai fait.
L'enfant sac à dos.
Voilà, c'est un conseil aussi à donner aux mamans solo, c'est de faut y aller par étapes si vraiment on a peur, mais d'essayer de chasser cette peur de sortir avec son enfant, de faire des choses, des week-ends, des voyages quand on peut, ou même juste un resto. Faut y aller, ils adorent ça, ils apprennent plein de choses. Et aussi, alors ça c'est le conseil numéro un, quand vous sortez, prenez toujours une petite valise roulante ou un sac avec plein de coloriage, des feutres, des voiturettes, vraiment tout pour les occuper au maximum. Et sincèrement, ça, ça marche et c'est assez précieux quand on est seul à sortir, à gérer son enfant quand on sort.
Alors voilà, voilà quelques conseils que vous pourrez retrouver hein, dans le livre de Shane Love qui s'appelle Maman Solo et qui seront plus détaillés pour toutes ces mamans qui se retrouvent, comme on disait, à gérer leur barque toutes seules et qui le font toutes avec courage et fierté. Merci beaucoup Shane Love.
Merci beaucoup.
Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet des mamans solo. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas, Galère sa mère, c'est tous les premiers samedis du mois. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Sada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouvoisiz. À très très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.